Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous. Je vous le disais, nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne. Vous connaissez le principe, vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité. Donc vous nous appelez et vous lancez le débat en direct sur RFI. Vous passez par le standard évidemment, sinon les réseaux sociaux, la page Facebook d'Appel sur l'actualité et le compte WhatsApp de l'émission. La libre antenne, ce sera dans 30 minutes. Mais d'abord, comme tous les matins, votre rendez-vous interactif avec la rédaction de RFI. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez peut-être un complément d'information, eh bien nous sommes là tous les matins avec nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants, et on vous répond évidemment en direct. Et Mohamed nous a contacté de Moroni dans l'archipel des Comores. Bonjour Mohamed.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Merci. Merci de nous appeler, donc, des Comores. Vous avez des questions après l'horrible découverte dans une école coranique du nord du Nigeria.
Oui, absolument. Il y a quelques semaines, une nouvelle maison d'horreur a été découverte au nord du Nigeria. La police a trouvé 300 garçons enfermés et enchaînés. Quels sont les profils des enfants retrouvés dans cette école?
Ouais. Plus de 300 garçons effectivement retrouvés enchaînés, torturés, victimes d'abus sexuels. C'est la deuxième fois en un mois que la police fait une telle découverte. Vous avez d'autres questions, Mohamed? On y revient évidemment dans un instant. Magali Lagrange, bonjour.
Bonjour, Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI. Que sait-on effectivement de ces jeunes retrouvés dans cette maison de l'horreur?
Alors, les jeunes qui ont été retrouvés dans cette école viennent de différents endroits du Nigeria, mais aussi d'autres pays, du Niger notamment, puisque Daoura, là où cet établissement se trouvait, se situe tout près de la frontière. Selon le porte-parole de la police de l'État de Katsina, certains des enfants retrouvés dans l'école ont été envoyés là par leur famille en raison de problèmes de toxicomanie, ou bien pour certains d'entre eux, pour des faits de délinquance. En clair, il peut s'agir de jeunes ayant des problèmes et dont les parents ou les proches ont donc du mal à s'occuper. Et d'ailleurs, le porte-parole de la police emploie le mot de centre de redressement pour décrire cette école.
Voilà, ce sont des éléments qui peuvent aussi expliquer la deuxième question que nous pose Mohamed.
Oui, il y a quelques mois, le président avait affirmé vouloir interdire ces écoles. Que fait-il pour les protéger?
Alors, je me souviens effectivement des propos du président Bouhari qui affirmait, je crois que c'était au mois de juin, que ces écoles seraient bientôt bannies. Concrètement, est-ce que la présidence a annoncé des mesures pour fermer ces écoles qui fonctionnent finalement hors de tout contrôle?
Oui, alors à ma connaissance, le président Mohamedou Bouhari n'a pas officiellement réagi cette fois à la découverte de cette école de Daoura. Mais il l'avait fait en revanche au début du mois. Le bureau de la présidence avait publié un communiqué officiel pour dénoncer ce lieu d'esclavage, ce lieu inhumain, et pour demander aux autorités religieuses et traditionnelles de travailler avec les gouvernements pour faire cesser ces violences. Il faut dire que l'affaire Juan a ému le pays et même au-delà des frontières. Mais effectivement, le président Mohamedou Bouhari et le gouvernement du Nigeria ont évoqué cette question des écoles coraniques il y a quelques mois pour dire que tout enfant au Nigeria doit aller à l'école et ne pas passer ce temps scolaire à mendier dans la rue. La question de l'interdiction des écoles a été soulevée, mais c'est une question compliquée. Le porte-parole de la présidence avait immédiatement tempéré les propos pour dire que c'était un objectif, mais que l'interdiction n'était pas encore en vigueur et que cela devrait se faire en concertation avec les autorités religieuses et traditionnelles. Et pour finir, l'ONG avec laquelle j'ai parlé dit de son côté qu'elle suit avec attention le plan d'action prévu par le gouvernement. Par exemple, un projet de loi discuté à l'Assemblée sur les droits des enfants, et l'organisation appelle surtout le gouvernement à agir concrètement, à prendre les choses en main, parce qu'elle rappelle que depuis des années, il ne fait rien.
Ouais. Pourquoi les parents décident d'envoyer leurs enfants dans ces écoles coraniques?
Alors, on y a un petit peu répondu tout à l'heure, puisqu'il s'agit pour la police d'un centre de redressement. Ce sont des enfants qui parfois ont des problèmes. J'ajouterai les explications fournies par cette ONG, Al-Majiri Child Rights Initiative. Son fondateur explique que c'est aussi une longue tradition dans cette région du nord du Nigeria que d'envoyer ses enfants dans des écoles coraniques. Il précise bien sûr que toutes les écoles coraniques du pays ne sont pas à l'image de ces deux qui ont été découvertes et qu'on touche là au pire de ce que le système peut produire, selon ses termes. Pour finir, de de vous répondre, Juan, on trouve aussi dans ce système d'écoles coraniques des enfants de familles pauvres qui ont beaucoup de mal à accéder à l'éducation autrement.
Ouais, les écoles coraniques qui sont parfois les seules auxquelles ont accès les familles les plus démunies. Mohamed, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement. Merci Juan, merci Magali Lagrange. Bon vendredi.
Et bon vendredi à vous également Mohamed. Et on salue tous ceux qui nous écoutent dans l'archipel des Comores. 10h16 à Paris, 33 9 693 693 70. Bonjour Pierre Pinto.
Bonjour.
Correspondant permanent de RFI en Côte d'Ivoire, nous vous avons contacté ce matin car nous avons reçu des questions après l'officialisation de la candidature de Guillaume Soro à la présidentielle de l'année prochaine. Armand fait partie de ses auditeurs. Bonjour Armand.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Vous êtes à Abidjan, on vous écoute Armand.
D'accord. Récemment, en réunion avec ses sympathisants d'Espagne à Lens, le député Soro Guillaume a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Mmh. Alors, comment expliquer qu'il annonce sa candidature si tôt ?
Ah.
Et sur quel soutien politique peut-il compter ? Est-ce qu'une alliance avec le PDCI d'Ari Conan-Bédier est-elle envisageable ?
Alors, Pierre Pinto, pour ceux qui ne suivent pas la vie politique ivoirienne, il faut quand même rappeler que la candidature de l'ancien président de l'Assemblée nationale était un secret de polichinelle. Mais Armand pose une bonne question. Pourquoi Guillaume Soro l'annonce-t-il, annonce-t-il cette candidature aussitôt alors qu'aucun autre poids lourd de la scène politique ivoirienne n'a encore fait acte de candidature ?
C'est vrai qu'on peut y voir plusieurs explications. D'abord, depuis quelque temps, des rumeurs circulaient sur des discussions entre le camp Soro et le pouvoir, avec à la clé un éventuel retour de Guillaume Soro dans le giron RHDP. Donc, en annonçant bien qu'il sera candidat, l'ancien Premier ministre coupe court à ces rumeurs. Pas question d'un retour dans le giron RHDP. Ensuite, à Valence, en Espagne, Guillaume Soro a aussi annoncé qu'il comptait rentrer en Côte d'Ivoire en novembre pour lancer son mouvement politique GPS, Génération et Peuple Solidaire, et ainsi lancer véritablement sa campagne. Comme il s'agit d'un nouveau mouvement qu'il faut rassembler ses sympathisants, ses partisans, tous les mouvements qui se réclament de Guillaume Soro et les organiser en machine dédiée à la victoire électorale du candidat Soro, eh bien un an, en fait, ça ne semble pas excessivement long. C'est aussi une manière de se positionner en candidat de l'opposition avant le PDCI et avant le FPI Gbagbo. Vous l'avez dit, aucun des poids lourds de l'opposition n'a encore fait acte de candidature. Le PDCI choisira son candidat lors d'une convention dont on attend toujours la date. Quant au FPI Gbagbo, c'est l'incertitude la plus complète. On ne sait pas si Laurent Gbagbo, en résidence surveillée à Bruxelles, pourra rentrer ou non en Côte d'Ivoire avant les élections, et le cas échéant, même s'il sera candidat en 2020, et certains appétits d'ailleurs s'aiguisent dans son entourage. Donc, en se déclarant, Soro apparaît comme l'un des candidats sérieux de l'opposition. Et puis, dernière explication, en tout cas autre explication possible, qui renvoie d'ailleurs à l'histoire de la tentative d'interpellation présumée à Barcelone la semaine dernière, dans le camp Soro, on est persuadé que le pouvoir prépare un mauvais coup judiciaire, par exemple, pour tenter d'écarter Guillaume Soro de la présidentielle. Et en se déclarant, eh bien, l'ancien chef rebelle attire sur lui les lumières, médiatiques notamment, et internationales, en se posant, le cas échéant, si quelque chose devait arriver contre lui, eh bien, en opposant, persécuté ou harcelé.
Alors, Guillaume Soro n'a pas de parti politique. Sur quel soutien peut-il compter ? Est-ce qu'on peut envisager une alliance avec le PDCI d'Henri Colombédier ?
Alors en termes de soutien, Guillaume Soro n'a pas de parti, certes, mais il peut compter sur un certain nombre de petits mouvements politiques, des partis ou des associations soroïstes qui lui sont totalement dévouées et qui devraient donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, se retrouver au sein d'un seul et même mouvement baptisé, comme je vous le disais, GPS, Génération et Peuple Solidaire. En termes d'alliance, Guillaume Soro a rencontré Henri Conan-Bédier à Paris l'été dernier et à Valence, samedi dernier, il a réaffirmé qu'il y avait une entente entre eux sur le fait que parmi les candidats d'opposition, le mieux placé obtiendrait au second tour le soutien de l'autre ou des autres pour faire barrage au RHDP. Ce faisant, Soro s'inclut même dans le pacte entre Bédier et Gbagbo, rendu public début août. Or, il est loin d'être certain que le FPI accepte en l'état actuel des choses d'appeler, le cas échéant, à voter Soro. Après, là encore, on est à un an de la présidentielle, Juan, et il peut y avoir encore de nombreux revirements ou retournements de situation d'ici là.
Oui, Armand, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, on souhaite seulement la paix à la Côte d'Ivoire.
On souhaite la paix à la Côte d'Ivoire et on aura l'occasion tout à l'heure dans la libre antenne de revenir sur la candidature de Guillaume Soro. Voilà un sujet qui a suscité des centaines de commentaires postés sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Merci Pierre Pinto, bonne journée à Abidjan. Armand, merci de nous écouter dans la capitale économique ivoirienne. Christophe Paget du service international de RFI nous rejoint à l'instant même. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Bienvenue, nous avons des questions sur la situation à Hong Kong. Pas une semaine ne passe sans que les auditeurs nous interpellent sur la crise hongkongaise. Mamadou, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes à Conakry, soyez le bienvenu.
Oh, oui, alors que le projet de loi d'extradition vers la Chine à l'origine des manifestations a été abandonné, les contestations continuent à Hong Kong. Pourquoi la crise perdure encore? Après 3 mois de manifestations, des divisions apparaissent-elles chez les manifestants?
Alors, c'est vrai que la crise perdure. En début de semaine, Christophe Paget, ils étaient encore des dizaines de milliers de militants pro-démocratie dans les rues de Hong Kong. Un nouveau rassemblement est même prévu demain. Et Mamadou a raison, ça l'a fait maintenant plus d'un mois que ce projet de loi controversé a été retiré. Et pourtant, le mouvement de contestation ne faiblit pas.
Oui, effectivement, Carrie Lam, la chef de l'exécutif hongkongais, a déjà répondu à la principale demande des manifestants, retirer définitivement le projet de loi qui aurait permis les extraditions vers la Chine continentale, ce qui, selon les manifestants, aurait été la fin du « un pays, deux systèmes » en cours en Chine, depuis que la Grande-Bretagne a rétrocédé Hong Kong à Pékin en 97. Et les Hongkongais ne veulent pas perdre certaines libertés dont ils jouissent, des libertés inconnues sur le continent. Alors, pourquoi le mouvement continue-t-il? « Too little, too late », disaient les manifestants quand Carrie Lam a finalement retiré le texte début septembre. « Trop tard et pas assez ». Car depuis des mois, d'autres demandes se sont greffées à celles d'origine. Les violences policières qui ont démarré en juillet, lorsque Carrie Lam a d'abord suspendu, sans le retirer, le fameux texte, choquent toujours les Hongkongais et les manifestants qui, en plus des lacrymogènes, font maintenant l'expérience des canons à eau, des balles en caoutchouc et même de tirs à balles réelles. Un manifestant a été blessé par balle le 1er octobre. Les manifestants demandent donc une enquête indépendante sur les violences policières, également l'instauration du suffrage universel à Hong Kong, une amnistie pour les 2000 manifestants arrêtés, et Carrie Lam n'a accepté aucune de ces demandes. Loin de se calmer, du coup, le mouvement se durcit.
Pourtant, on s'en souvient qu'en 2014, le dernier mouvement, celui des parapluies, n'avait duré que 2 mois.
Oui, mais les manifestants en ont tiré les leçons. D'abord, à l'époque, ils occupaient le centre de Hong Kong. Au bout de 2 mois, ils étaient épuisés. Maintenant, ils manifestent ponctuellement. Et puis, le mouvement actuel n'a pas de chef. En 2014, toutes les figures des parapluies avaient été arrêtées, ce qui avait décapité le mouvement. Là, tout s'organise en ligne. Pas de leader, donc ça complique les choses pour l'exécutif qui ne sait pas qui arrêter. Et puis, la politique intransigeante de Carrie Lam et donc de Pékin énerve plus qu'autre chose une bonne partie des Hongkongais, comme sa décision au début du mois d'interdire les masques de protection qui permettent aux manifestants de ne pas être reconnus. Du coup, si le mouvement dure, c'est aussi parce que la plupart des Hongkongais soutiennent les manifestants. Et certains d'entre eux houspillent et chahutent parfois la police lorsqu'elle intervient dans leur quartier.
Ouais, les Hongkongais qui soutiennent les manifestants, même si Christophe Paget, certains se sont radicalisés.
Une manifestante au début du mois disait « Le gouvernement ne nous écoute pas, alors nous renforçons notre action ». De fait, les violences ne viennent plus uniquement de la police. Certaines personnes soupçonnées d'être pro-Pékin ou d'être des policiers infiltrés ont été frappées pendant des manifestations. Les plus radicaux lancent des pierres et des cocktails Molotov sur la police. Les magasins sont ciblés. Il y a même un code couleur pour distinguer les commerces qui soutiennent la mobilisation, ceux hostiles qu'il faut boycotter, ceux qui bénéficient de capitaux chinois et dont il faut taguer les vitrines avec des slogans. Des milliers de tourniquets de distributeurs de tickets de métro hongkongais ont été cassés par des manifestants qui accusent son opérateur, MTR, l'opérateur de métro, de transporter les renforts de la police et de fermer certaines stations pendant les manifestations.
Ouais, en quelques mots, Christophe Paget, Mamadou nous demandait si après 3 mois de manifestations, il y avait tout de même des divisions au sein même des contestataires, au sein même des manifestants.
Non. Je suis clair là-dessus, non. Même si le débat sur l'opportunité de recourir à la violence ferait rage sur ces forums en ligne qui permettent aux manifestants d'organiser le mouvement, en fait, beaucoup de modérés sont eux-mêmes convaincus que sans les radicaux, jamais le gouvernement n'aurait retiré le fameux texte sur les extraditions. Et puis les manifestants se sont aussi soutenus par les actions des députés pro-démocratie qui manifestent et qui, hier et avant-hier, ont sévèrement chahuté Carrie Lam au Parlement. Parlement qui a dû interrompre son discours de politique générale. Il y a aussi un soutien de l'étranger. Mercredi, un politicien norvégien a ainsi nominé le peuple de Hong Kong pour le prix Nobel de la paix. Et dans le même temps, aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté un texte obligeant Washington à s'assurer chaque année que l'autonomie de Hong Kong est préservée, sinon le territoire ne bénéficierait plus d'un traitement économique spécial. Autant d'annonces qui ont rendu Pékin furieux.
Merci Christophe Paget d'être venu répondre à Mamadou de Conakry. Allez, la dernière question de la semaine, elle nous sera posée par Satigui. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Et vous êtes également à Conakry, hein, dans la capitale guinéenne. Vous avez des questions sur la crise catalane.
Juan, cette semaine, la Cour suprême espagnole a condamné 9 des 12 indépendantistes catalans pour leur rôle dans la tentative de cession de la Catalogne pour sédition ou de détournement des fonds publics.
Oui.
Un nouveau mandat d'arrêt a été lancé contre l'ex-président catalan exilé en Belgique, Carlos Puigdemont. Non plus pour rébellion, mais pour détournement de fonds publics. Une extradition vers l'Espagne est-elle envisageable?
Alors, vous vous intéressez donc à Carles Puigdemont, l'ancien président de la Catalogne. Bonjour Jean-Marc Sanchez.
Bonjour.
Avocat franco-espagnol au barreau de Paris et de Madrid. On rappelle que depuis 2 ans, l'ex-président de la Catalogne a fui en Belgique pour échapper aux justices judiciaires. On se souvient que le premier mandat d'arrêt international lancé contre lui avait été rejeté par l'Allemagne, rejeté également par la Belgique. Est-ce que ce nouveau mandat d'arrêt international a-t-il une chance d'être appliqué?
On va le savoir très vite, puisque ce matin, Carles Puigdemont, c'est une information qui n'a pas encore été diffusée par les médias français, a été entendue et s'est présentée spontanément devant la justice belge. La question que pose votre auditeur est intéressante d'un point de vue technique, puisque souvenez-vous que les indépendantistes catalans avaient été poursuivis pour différentes raisons, et notamment pour rébellion. La rébellion suppose qu'il y ait eu violence organisée dans le but de remettre en cause soit la formation du gouvernement, soit les institutions en place. Or, le tribunal suprême espagnol n'a pas suivi les réquisitions du parquet, ni de l'avocat de l'État, ni de l'accusation populaire, et n'a reconnu que, c'est déjà beaucoup, mais que le délit de sédition. Ce qui fait que les peines, au lieu d'être de 25 ans de prison, ont été pour celui qui a subi la plus lourde peine, Oriol Junqueras, de 13 ans. Donc si aujourd'hui les Belges ou d'autres pays européens étaient éventuellement susceptibles de revenir sur l'appréciation des faits, ils pourraient, et les Belges notamment avaient objecté le fait que la rébellion n'existait pas dans leur code pénal, mais ils pourraient peut-être dans ce cas-là considérer que les faits de sédition étant susceptibles d'être poursuivis dans leur pays, alors oui, peut-être qu'on pourrait envisager un retour de Carles Puigdemont vers l'Espagne. Ceci étant, il disait l'autre jour encore à ceux qui voulaient l'entendre qu'il était prêt à aller ailleurs et peut-être même en Russie où on était prêt à l'accueillir.
Oui, donc si je comprends bien, Jean-Marc Sanchez, c'est important d'être précis, que les auditeurs comprennent bien la situation. Si Carles Puigdemont était poursuivi pour rébellion, il n'aurait donc aucune chance de revenir en Espagne. En revanche, le fait d'être désormais poursuivi pour délit de sédition et détournement de fonds publics, la justice belge pourrait donc appliquer le mandat d'arrêt.
Elle ne pourrait plus en tout cas dire qu'elle ne le peut pas à raison du fait que l'un des délits pour lesquels il était poursuivi, la rébellion, n'existe pas dans son code pénal. Le principe en fait du mandat d'arrêt européen, c'est que vous ne pouvez pas poursuivre dans un pays quelqu'un pour un crime ou un délit qui dans ce pays n'existe pas. Mmh. Donc comme ce délit en droit belge n'existe pas, alors Carles Puigdemont était à l'abri. Maintenant, si effectivement, et c'est le sens du mandat européen du juge Lamena, qui était celui qui était à l'origine des poursuites contre Carles Puigdemont, ne précise plus le délit de rébellion, mais uniquement de sédition, oui, pour répondre à votre question, il est envisageable que les Belges ou d'autres pays où Carles Puigdemont, vous l'avez rappelé, avait trouvé refuge, puisse le remettre aux autorités espagnoles.
À la justice espagnole. Merci infiniment de toutes ces explications, Jean-Marc Sanchez, avocat franco-espagnol au barreau de Paris et de Madrid. Bonne journée, Satigui. Reste avec nous, on marque une pause. On retrouve l'ensemble du service Afrique de RFI et on revient dans 10 minutes pour la Libre Antenne.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.